la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Le Cambium, les guerres au Moyen-Orient, Hormuz, Lafarge, l'audiovisuel public Grasset, la saison 3 d'Euphoria. Pléthore de sujets d'horreur ces derniers jours. La gangrène humaine est instoppable et des choix d'édito infinis, mais surtout un énième échec d'attentat contre Donald Trump et son administration. Un record de 5 tentatives d'attentat en 10 ans et toujours plus de prétextes à évangéliser le tyran américain en messie politique. Impossible d'éviter le complotisme des réseaux où les masses voient un moyen de Donald Trump de détourner les regards de ses différents échecs en géopolitique ou de ses proximité avec Epstein. Chers auditeurs, ne vous laissez pas embobiner. Lisez les informations, vérifiez les sources. Le journalisme est peut-être en petite forme dans ce monde fascisant, mais d'intègres limiers travaillent à faire ressortir la vérité. Et la vérité de cet attentat, c'est uniquement la violence, fermement condamnée par les leaders européens, c'est vrai, mais une violence omniprésente, outre-Atlantique, exacerbée par le cerveau malade d'un pays au passé taché de sang. De la Révolution à nos jours, c'est une Amérique teintée de rouge, de massacres et de guerres incessantes, glorifiées et romancées. Et le garde-fou de cette névrose brandit l'étendard de la guerre sur son sol, contre les siens, chez ses voisins et à l'autre bout du monde. Alors condamnons, discutons, apaisons et du con, que faire dans un pays où l'on se promet à fusiller, où le gouvernement rêve de guerre, où sa haine appellera toujours à la violence. Ses alliés de l'extrême droite européenne ne veulent pas le répudier, s'inspirent, regardent, apprennent, et à un an des élections présidentielles en France, le fantôme d'une trumpisation de la politique hante un débat public où Bruno Retailleau veut enfermer les quartiers populaires entre des murs et des blindés. Chers auditeurs, pardonnez la gravité de mon ton, mais c'est mon dernier édito de la saison et autant saisir cette opportunité pour pisser sur les bottes de ces amoureux de la haine. Au sommaire de cette matinale, tout de suite pour la grande interview, nous retrouverons Anna Kieffer en charge du dossier Lafarge dans l'association Sherpa. Cet échange sera mené par Vladimir. Ensuite, Tirana nous racontera l'essentiel du monde dans le Flash Info. Toujours dans l'actualité, dans la troisième partie de l'émission, Rachel nous continuera de nous éclairer sur l'actualité dans sa chronique. Pour continuer sur cette belle lancée, nous diffuserons le reportage de Louis-Pierre Lacouture autour du film Serras Farruquito avec l'interview d'un des deux réalisateurs, Santi Aguado. Et nous finirons cette matinale en beauté avec la chronique libre d'Éloane.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Passons tout de suite à la grande interview. Comme dit précédemment, nous recevons donc Anna Kieffer, en chargée de plaidoyer contentieux sur le dossier Lafarge dans l'association Sherpa. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Et ce soir, vous serez interviewée par Vladimir. Bonsoir Vlad.
Bonsoir. Alors du coup, on est très heureux de vous avoir ce soir. Je vais juste faire un petit point de contexte et d'introduction. Le 13 avril 2026, il y a 8 personnes, dont les anciens plus hauts dirigeants du groupe Lafarge, donc c'est un mastodonte du ciment industriel français, qui ont été condamnés à plusieurs années de prison ferme pour financement du terrorisme. Ils ont été déclarés coupables d'avoir fait transiter près de 5 millions d'euros à des groupes terroristes, notamment l'État islamique, entre 2013 et 2014, afin de poursuivre l'activité d'une de leurs cimenteries en Syrie. Donc c'est un procès historique. Et avec nous, pour en parler, on a Anna Kieffer, du coup, qui est chargée de plaidoyer au sein de l'association Sherpa, qui défend les droits humains et l'environnement face aux acteurs économiques. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur cette affaire qui est quand même assez complexe. Donc on va d'abord faire un gros point de contexte pour parler des 10 ans de cette affaire-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où ça a commencé et comment est-ce que cette affaire a débuté ?
Alors, on peut démarrer par comment Lafarge est arrivée en Syrie. Mmh. En 2008, la société française rachète un groupe égyptien, Orascom, qui avait débuté la construction d'une usine dans le nord de la Syrie. Lafarge investit des millions d'euros, plus de 600 millions d'euros, pour finir la construction de cette usine. Elle est inaugurée en 2010, à la veille en fait des printemps arabes, et en 2011, les printemps arabes débutent, la guerre civile syrienne démarre et petit à petit se rapproche de l'usine. Donc en 2012, on a des groupes armés qui sont autour de l'usine avec plusieurs factions qui se disputent le territoire, et petit à petit, en fait, Lafarge met au point un système qui a été décrit comme opaque et organisé pour financer ces groupes, pour permettre la poursuite de l'activité.
La particularité, c'était qu'en 2012, tous les industriels, en tout cas toutes les industries, on va dire européennes ou françaises, avaient totalement quitté le territoire en contexte de guerre civile. Mais Lafarge a décidé de rester, du coup, sur ce territoire pour continuer à faire travailler son usine. C'est bien ça?
Oui. Lafarge est la seule multinationale française qui est restée. Total, Bell ont quitté dès 2012 la Syrie au vu de la gravité des événements sur place.
Et donc du coup, il y a eu pendant entre 2012 et 2014, on va dire un partenariat presque, c'est un peu ce terme-là qui a été utilisé au jugement, c'est ça ?
Tout à fait, la juge a décrit ça comme un partenariat commercial avec ces entités terroristes, dont l'État islamique. Il y a également deux autres entités qui sont visées, le Jabhat al-Nusra et Ahrar al-Sham. Et la juge, dans sa décision du 13 avril, a vraiment des mots très forts, très symbolique aussi de décrire ça comme un partenariat commercial, comme si Lafarge avait décidé que l'EI, l'État islamique, serait un partenaire comme un autre.
Et ce partenariat, du coup, il passait par le fait de, par exemple, payer les groupes rebelles au niveau des checkpoints, assurer l'approvisionnement de matières premières, faire en sorte que, du coup, les salariés syriens, du coup, de l'usine, parce que tous les salariés étrangers étaient expatriés, mais les salariés syriens étaient contraints de rester travailler dans l'usine. Et du coup, ce partenariat-là, comment il se nouait ?
Alors, en effet, à partir de 2012, tous les salariés étrangers quittent la Syrie. Il ne reste plus que les salariés syriens qui doivent continuer à maintenir l'activité de l'usine, qui font des heures supplémentaires, qui doivent traverser les checkpoints. Ils ne sont au début pas logés sur l'usine, donc au niveau de l'usine, donc ils doivent traverser des centaines de kilomètres pour rejoindre l'usine parfois, et traverser différents checkpoints. La société leur demande de résider dans une ville, Manbij, qui tombe ensuite sous le contrôle de Jabhat al-Nusra, puis de l'État islamique, qui est aussi la cible de bombardement par la coalition internationale qui bombarde l'État islamique. Donc, ils sont soumis à des conditions extrêmes, des conditions de travail indignes, en fait, et leur vie est mise en danger. Plusieurs ont été kidnappés, leur vie a été menacée lors des passages au checkpoint. Certains sont décédés. L'un, en allant chercher son salaire, a été tué par un sniper. Donc, on voit que Lafarge a continué à faire tourner cette usine en disant « non, safety first ». On est là pour la sécurité de nos salariés et pour leurs bénéfices, parce que l'argument un peu humaniste invoqué par Lafarge était de dire « si on part, ils n'auront plus de travail ». Mais ils ont quand même pu expatrier tous les salariés étrangers, mais n'ont rien prévu pour les salariés syriens. Et en plus, je tiens à préciser qu'avec la dévaluation de la livre syrienne, leur salaire a complètement fondu et ne valait presque plus rien à la fin de leur activité. On peut préciser qu'en 2014, l'usine s'arrête, mais pas parce que Lafarge décide de l'arrêter, mais parce qu'elle est prise d'assaut par l'État islamique. Il n'y a pas eu d'évacuation des salariés qui ont fui par leurs propres moyens parce qu'il n'y avait pas de plan d'évacuation en place. Et certains auraient pu tomber aux mains de l'État islamique. Deux chrétiens sont tombés aux mains de l'État islamique, ont pu finalement être libérés grâce à des rançons. Mais on voit la dangerosité extrême dans laquelle Lafarge a placé ses salariés.
Donc on peut comprendre, on reviendra justement sur votre relation avec Sherpa et les salariés un peu plus tard. Mais du coup, pour revenir un peu sur ce pacte un peu commercial qui a été noué, quelles étaient les sources de financement qui étaient versées par Lafarge au groupe terroriste ?
Alors, il y avait une liste de bénéficiaires, donc des groupes. Donc, il n'y avait pas que ces trois groupes, mais également d'autres factions qui contrôlaient une partie du territoire. Et ça correspondait à payer ces groupes pour avoir des checkpoints, des laissez-passer. Donc, on a même des traces de laissez-passer de l'État islamique avec le nom de Lafarge dessus, qui ont été présentés lors du procès. Mais également pour acheter des matières premières aux carrières qui étaient sous le contrôle de personnes influentes de l'État islamique. Ou sinon, les groupes terroristes avaient aussi une part selon les ventes de Lafarge.
Donc il y avait une
taxe proportionnelle aux ventes. Donc ils avaient un intérêt à ce que Lafarge puisse continuer. Et ça, c'était important pour Lafarge parce qu'en fait, ils négociaient des partenariats commerciaux et eux ont voulu dire que c'était du racket. C'était une de leurs lignes de défense principales, de dire qu'ils avaient été rackettés par ces groupes. Mais lorsqu'on lit les emails, on ne voit pas le mot racket. Ça a bien été souligné dans le jugement. On voit le mot négociation, on voit le mot accord. Et il fallait trouver quelque chose de gagnant-gagnant pour Lafarge. Donc certes, ils auraient préféré ne pas avoir de groupe terroriste avec lesquels ils devaient négocier, mais ils étaient pragmatiques, ils se sont dit ils sont là, on va faire avec eux, et le but c'est de continuer à faire tourner notre usine. C'était un investissement très important pour Lafarge, ils ne voulaient pas perdre cet investissement tout neuf, que ça tombe aux mains de groupes terroristes, mais aussi on est dans le contexte d'une fusion qui était en cours de négociation.
Avec une entreprise suisse.
C'est ça, avec l'entreprise suisse Holcim, qui était le deuxième mondial avec Lafarge dans le ciment. Et cette fusion aurait capoté peut-être si cet investissement avait été perdu. Ça aurait été aussi quelque chose de très négatif dans les comptes de Lafarge pour les investisseurs. Donc il y avait tout cet enjeu de camoufler en fait ce qui se passait aussi en Syrie. Et même une fois qu'en 2014 l'usine est contrainte de fermer parce qu'elle est tombée aux mains de l'État islamique, ce n'est pas pris complètement en compte dans les comptes de Lafarge. Donc il y a encore une certaine dissimulation en fait de ce qui s'est passé sur place.
Oui, ce qui laisse à penser justement qu'ils étaient totalement au courant de ce qu'ils faisaient. On reviendra justement sur le jugement et sur le procès. Et comment a été révélée l'affaire ? Donc il y a eu un article en 2016, donc il y a eu une enquête du Monde. Et comment est-ce que l'association Sherpa s'est impliquée dans ce procès et dans cette affaire-là ?
Alors suite à cette enquête du Monde de Dorothée Miram-Kellou, Sherpa découvre ces faits, commence à enquêter, parle avec des anciens salariés syriens, écoute leur histoire et en fait se demande est-ce que ces faits peuvent se transformer en une plainte, une action contre la société. Est-ce qu'il peut y avoir une qualification juridique de ces faits ? C'est tout le travail de notre association qui a pendant plusieurs mois travaillé dessus et en novembre 2016 dépose plainte pour financement de terrorisme, mais aussi complicité de crimes contre l'humanité, mise en danger délibérée de la vie des salariés syriens, ainsi que d'autres infractions liées aux conditions de travail indignes des salariés. Et suite à cette plainte, on a une instruction qui est ouverte l'année d'après et des mises en examen après les premières auditions des dirigeants et la mise en examen de la société, ce qui était très important aussi pour nous, que ce soit aussi le système en lui-même qui soit mis devant ses responsabilités et pas seulement les individus, même si ça s'est fait au travers de ces individus.
Oui, bien sûr, c'est votre engagement justement de pouvoir protéger des salariés, en tout cas des personnes, contre un système économique aussi qui les met à mal. C'est un peu aussi votre but.
Oui, tout à fait. Et on sait qu'il y a une impunité généralisée des multinationales parce qu'en fait, elles ne sont jamais tenues responsables de leurs activités à l'étranger. Parce qu'il y a cette fiction juridique qu'on est deux personnes différentes, notre filiale et la société mère en France. Et du coup, c'est très difficile de tenir une société mère, donc la multinationale, responsable pour tout ce qui se passe à l'étranger. C'est pour ça que ce dossier est aussi historique, parce qu'il permet de faire reconnaître la responsabilité de la société Lafarge pour ce qui s'est passé dans sa filiale en Syrie.
Et comment concrètement vous avez travaillé avec les victimes ? Est-ce que vous les avez fait venir en France ? Est-ce qu'elles ont témoigné à l'occasion de ce procès-là ? Comment ça s'est passé du coup, le travail avec les victimes ?
Alors on a aidé plusieurs à venir en France déjà pour témoigner devant le juge d'instruction. Donc pendant les près de 9-10 ans d'instruction qu'il y a eu, il y a eu plusieurs qui ont pu venir. Ça a été en effet très compliqué avec des questions de visa pour des personnes qui sont situées en Syrie, en Turquie. Voilà, ça a été beaucoup de travail. Puis là, pendant le procès, on a pu aussi en faire venir et plusieurs sont venus témoigner. Et c'était des moments très forts et ça a été reconnu par la juge. Enfin, la finesse et la précision et la dignité de leur témoignage qui a permis aussi de déconstruire un des narratifs principaux de Lafarge, de dire oui, on est resté pour eux à leur bénéfice et en faisant attention à leur sécurité. Et ces témoignages sont venus complètement déconstruire ce narratif. Et même s'ils n'ont pas pu obtenir réparation, c'est un autre point qu'on pourra peut-être aborder, leur témoignage a été décisif.
Eh ben, c'est en effet du coup un procès du coup qui a été vraiment un procès historique. Vous étiez revenu un peu sur les arguments, donc on a vu un peu les arguments des salariés qui justement ont essayé de défendre ça. Il y a eu des arguments qui étaient particulièrement peu convaincants de la part justement de la défense. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus ?
Alors il y avait cette question de racket. Est-ce que on ne se serait pas fait racketter par ces groupes ? Mais en effet, les mots qu'on retrouve dans les emails des dirigeants qui sont écrits noir sur blanc parlent de faisons un accord, faisons une négociation avec ces groupes. On parle de partage du gâteau. Donc un des dirigeants a dit qu'il fallait partager le gâteau avec l'État islamique. Donc on n'est pas sur du racket en fait. On a aussi cet argument qui avait été invoqué de l'État français nous a incité à rester. Et ça, c'est un narratif qui est revenu très longtemps pendant l'instruction qui a duré quand même de nombreuses années. Il n'y a pas de preuve en fait que l'État ait demandé à Lafarge de rester.
Comme s'il devait faire du renseignement justement pour sur le territoire, un peu avoir des informations exclusives à transmettre à l'État. Mais ça, il n'y avait pas de preuve du coup qui pouvait étayer ces informations.
Il y a des preuves qui sont tout à fait publiques. Une des personnes qui travaille au sein de Lafarge, qui est la personne en charge de la sécurité, avait remonté des informations sur les checkpoints sur place. Mais il n'y a aucune preuve que ça a été demandé par l'État. Et en fait, cela n'exonère en rien de toute façon la responsabilité de la société.
Très bien.
Et c'est très intéressant, mais avant de continuer cette interview, une petite pause musicale peut-être avec Window de Foo Fingers. C'était Window de Foo Fighters. Il est 19h19. Vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris 93.9 FM.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et on reprend tout de suite cette grande interview avec Anna Kieffer en charge du dossier Lafarge dans l'association Sherpa. Le sujet de ce soir, hein, qui répond à l'actualité après les condamnations de Lafarge et des anciens dirigeants pour financement du terrorisme. Je vais maintenant laisser Vladimir reprendre la parole.
Oui, rebonsoir. Alors du coup, en première partie d'interview, on est vraiment revenu sur tout le contexte, toute l'histoire de comment est-ce que ce montage et cette coopération entre des groupes terroristes et l'entreprise cimentier Lafarge s'est produite avec du coup le procès qui s'en est tenu avec des condamnations. Et j'aimerais revenir du coup maintenant sur le côté historique de ce procès-là, parce que c'est vraiment un procès qui est très particulier, déjà par la gravité des faits qui sont reprochés à la défense, et puis aussi par tout ce que ça implique, en tout cas. Est-ce que, Anna Kieffer, vous pouvez nous dire en quoi ce procès, pour vous, il est réellement historique ?
Alors, c'est un procès historique, et la décision qui a été rendue est historique aussi, et fera jurisprudence, parce qu'on a pour la première fois une multinationale française qui est condamnée de financement de terrorisme. Ça n'a jamais été vu. On a aussi des plus hauts dirigeants, dont l'ancien PDG qui a été condamné, avec notamment des peines lourdes d'emprisonnement avec mandat de dépôt, donc avec incarcération immédiate.
Donc il y a cette scène notamment au tribunal où à la fin, la juge a demandé aux policiers d'escorter l'ancien PDG de Lafarge en prison directement. Il y allait parce qu'il y avait mandat de dépôt. Il y avait une scène comme ça pendant le procès.
Oui, tout à fait. Donc le PDG, l'ancien PDG ainsi que l'ancien numéro 2, le directeur général adjoint qui était en charge de la Syrie à l'époque. Mais il y a également eu les peines d'amende maximale pour le financement terrorisme. Donc c'est 225 000 euros pour les personnes physiques, donc les dirigeants. Mais la société a eu l'amende maximale 1 125 000 euros. On a à côté de ça aussi l'amende douanière, plus de 4,5 millions qui doit être payée entre la société et les dirigeants. Donc c'est aussi des montants importants pour la justice française. Comme vous l'avez mis en avant, c'est les montants de financement les plus élevés que la justice ait jamais examinés. Donc même si on cumule tous les dossiers de financement de terrorisme, je ne pense pas qu'on arrive à ce montant de 5,5 millions d'euros versés à des organisations terroristes pour marquer l'ampleur de ce dossier. Ce n'est pas des petits montants qui ont été versés à ces organismes et du coup, d'où la gravité des faits et la gravité des peines.
Et donc du coup, c'est bien la première fois qu'une multinationale est jugée pour financement de terrorisme. Elle est également mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. C'est aussi une première mondiale, je crois.
C'est la première fois, en effet, qu'une multinationale est mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Et l'instruction se poursuit. Donc c'est un peu étrange, dans ce dossier, on a deux volets. On a eu le premier volet de financement de terrorisme qui a été jugé. Il y a eu un procès et maintenant la première décision. Les personnes ont fait appel, donc il y aura un deuxième procès. On ne connaît pas encore la date, mais sûrement dans plusieurs mois. Et on a en parallèle une instruction qui se poursuit contre la société et plusieurs dirigeants. Pour l'instant, on n'a que la société qui est mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Mais il faut comprendre pourquoi, en fait. Les groupes qui ont été financés par la Farge au moment des faits, donc c'est 2013-2014, c'est des moments où l'État islamique commettait des crimes contre l'humanité. C'est également le moment où le génocide des yézidis commence. Donc en 2014, à l'été 2014, le génocide des yézidis commence et on voit en parallèle la Farge qui est en train de négocier un nouvel accord avec l'État islamique, un accord cadre qui doit durer plusieurs mois pour reprendre les ventes de ciment.
Donc, en parallèle d'un génocide qui est en train de se développer et qui est en train d'être perpétré par l'État islamique.
Tout à fait. Alors une des défenses qui a été utilisée, c'était de dire à l'époque, on ne savait pas que ces groupes étaient terroristes ou on ne savait pas qu'il y avait ces faits qui étaient commis. Et en fait, tant qu'il n'y avait pas eu les attentats de Paris, on ne pouvait pas savoir que c'était des groupes terroristes. Mais en fait, cet argument est complètement fallacieux et n'a pas dupé la juridiction. Parce qu'on sait, déjà, il y avait des rapports d'ONG, des rapports de l'ONU. Ces groupes étaient inscrits sur des listes de groupes terroristes. Donc en fait, il n'y avait pas de doute sur leur dangerosité et leur aspect terroriste. Après, sur les crimes qui ont été commis, on a aussi plusieurs journalistes qui ont été tués dans des circonstances atroces. Et tout ça a été bien documenté. Et on parle d'une multinationale française avec des personnes qui ont des ressources pour se documenter. Ils avaient des experts qui leur faisaient des rapports. Ce n'était pas la personne lambda qui peut-être n'avait pas entendu parler de ce génocide. On est vraiment sur...
Et qui, à travers du coup, les taxes, les partenariats commerciaux de l'État islamique, ont directement, indirectement, mais contribué justement à préparer un peu tout ça. Et notamment peut-être aussi à financer indirectement les attentats qui se sont déroulés en France en 2015 aussi.
Alors c'est aussi une des raisons pour laquelle de nombreuses victimes des attentats du 13 novembre et des associations qui les soutiennent se sont constituées parties civiles dans le dossier. Parce qu'en effet, on sait que c'est l'État islamique qui a financé et commandé ces attentats à Paris. Et est-ce que l'argent étant fongible, on peut aussi penser que ces attentats ont été financés avec l'argent de la Farge. De la même manière où les crimes commis ont permis en fait le développement de ces entités terroristes au moment où en fait elles étaient en train de se développer de manière exponentielle et gagner du territoire. Donc c'est 2013-2014, vraiment la période charnière. Et ensuite 2015, on a en effet des attentats sur le territoire français. La concordance de temps et permet de penser qu'il peut y avoir une complicité dans ces actes.
Et j'avais du coup une question sur, donc là on a vu un peu les condamnations qui ont été faites, mais au niveau des victimes, est-ce que du coup ce procès permet des réparations ou est-ce que du coup c'est plus compliqué que ça ?
Malheureusement, les victimes, à la fois les salariés syriens et les victimes des attentats du 13 novembre, n'ont pas pu obtenir réparation. La Cour, en fait, a appliqué une jurisprudence qu'on connaissait déjà qui dit qu'il n'y a pas de préjudice direct et personnel du fait du financement de terrorisme. Qu'en fait, ça porte seulement une atteinte à l'intérêt général et pas à un intérêt personnel. Donc, on ne peut pas obtenir réparation. On avait espéré qu'il puisse éventuellement y avoir un revirement étant donné la proximité en fait, entre le financement et les atteintes portées à ces salariés, mais ça n'a pas été le cas. Ils font appel, donc on verra en appel ce qui sera décidé. Je tiens à préciser d'ailleurs que tous les prévenus font appel, la société font appel et tous sont présumés innocents jusqu'à ce qu'il y ait une décision d'appel.
Depuis qu'ils ont fait appel, ils sont bien entendu présumés innocents. J'avais du coup une question un petit peu d'ouverture par rapport à ce procès-là qui s'est déroulé sur ce que ce procès-là historique dit du rôle de la société civile, notamment du travail des associations comme Sherpa, celle que vous représentez, parce que vous étiez vraiment à l'initiative de ce procès-là avec les victimes. Qu'est-ce que ça dit de votre rôle, de l'évolution de la justice éventuellement, d'un procès historique comme ça ? qu'est-ce que ça peut déclencher comme évolution dans la manière de juger ces choses-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu là-dessus?
Je pense que cette affaire illustre très bien le rôle clé que peuvent avoir les journalistes d'investigation, parce que c'est parti en fait d'une enquête dans Le Monde qui a permis ensuite à Sherpa de faire une plainte, de la déposer devant la justice, ensuite la justice de faire son rôle d'instruction et ensuite de procès. Donc on voit qu'il y a plusieurs maillons dans la chaîne et que face à des multinationales qui ont des moyens démesurés, à la fois financiers mais également parfois des relais médiatiques ou politiques, il est important que ces maillons puissent faire leur travail et participer à cette œuvre de justice. On sait que c'est souvent un peu David contre Goliath et que ce type d'affaire arrive rarement jusqu'au bout. Et là, on est vraiment heureux de voir qu'il peut y avoir enfin une décision contre une société, que l'impunité des multinationales est un petit peu mise à mal avec cette affaire et qu'elle fera jurisprudence pour que d'autres dossiers puissent aussi plus facilement obtenir une reconnaissance des faits. Ce qui est important peut-être à rappeler, c'est qu'en effet, les multinationales souvent n'ont pas de responsabilité pour ce qui se passe à l'étranger. Et là, ce dossier montre que non, c'est possible quand les sociétés multinationales sont un groupe avec une entité qui contrôle, qui finance, qui décide en fait de ce qui se passe dans ces filiales. Et tout est fait pour le bénéfice de la multinationale, pour les profits de la multinationale. Et donc, pourquoi elle ne devrait pas avoir de responsabilité si les profits peuvent remonter jusqu'à elle?
Bien sûr. Et une question aussi sur la responsabilité ou non de l'État français, qui a quand même, qui suivait quand même de près ce qui se passait en Syrie, qui avait peut-être des choses à dire pendant que ça se passait, pendant ce financement du terrorisme. Est-ce qu'ils n'en savaient absolument rien? Est-ce qu'ils ont été sollicités par les associations? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Est-ce qu'ils n'y sont absolument pour rien? Parce que c'est quand même assez grave ce qui s'est passé, notamment dans une lutte antiterroriste qui s'est énormément développée pendant ces années-là.
Alors notre association Sherpa, pendant l'instruction, avait demandé justement l'audition de Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, et également de l'ambassadeur Éric Chevalier, ambassadeur en Syrie à l'époque, pour qu'il puisse être entendu par la justice pour faire la lumière également sur ce volet-là en fait, du dossier. Ça n'a rien donné de très probant, mais en tout cas, même s'il y avait une responsabilité de l'État, cela n'aurait en rien exonéré la responsabilité de la société.
Bien sûr. Du coup, petite ouverture, il nous reste deux petites minutes. Vous, Sherpa, quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez en ce moment? J'ai cru savoir que justement, vous parliez de la coopération entre les journalistes d'investigation et votre association, notamment pour faire révéler un peu des procès et réussir à défendre les victimes. Et je crois que vous êtes aussi impliqué dans le procès des financements libyens de Nicolas Sarkozy, dont l'affaire a été révélée par Mediapart et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Oui, Sherpa. Et à la fois sur des dossiers de lutte contre l'impunité des multinationales, mais également de corruption, de flux financiers illicites, quand cela porte atteinte en fait et lèse les populations à l'étranger. Donc là, le peuple libyen en fait, qui a été volé de sa richesse pour financer une campagne électorale française de Nicolas Sarkozy. Donc on est partie civile dans ce dossier. On suit
vous
également...
représentez le peuple libyen et aussi les victimes de l'attentat du DC-10 ou c'est
alors
pas votre
non, audition. Elles ont aussi leurs propres avocats. D'accord. Et elles sont constituées partie civile, mais c'est Sherpa en tant qu'association qui a ce mandat de défendre l'intérêt général des populations lésées à l'étranger, qui avons porté aussi notre voix dans ce dossier. On a également deux autres associations anticorruption, Anticor, Transparency International. Nous sommes les trois associations agréées anticorruption en France qui peuvent en fait dans ces dossiers être partie civile. Et on voit l'importance en fait de cette société civile aussi de se mobiliser devant les juridictions. Et je vous remercie de me poser la question sur ces autres dossiers.
On ne peut que vous remercier pour tout le travail que vous menez au quotidien. Merci énormément d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ce sujet-là. Et je pense qu'on peut vous souhaiter vraiment tout le meilleur pour la suite et en tout cas pour vos prochains dossiers. Merci énormément d'avoir été avec nous.
Merci. Peut-être, moi je voulais poser une question, vu qu'il nous reste une toute petite minute. Vous travaillez que sur des sujets à l'international?
Alors c'est un peu la spécificité de Sherpa en effet, c'est de regarder les dérives de la mondialisation et qu'est-ce qu'elles ont comme quelle est l'impunité qui en découle. Donc on a aussi des dossiers de biens mal acquis, donc c'est par exemple des dirigeants étrangers qui, au travers de corruption, amassent des richesses et ensuite vont acheter des biens en France. De ramener en fait les richesses qui ont été volées au peuple, que ce soit des peuples syriens, libanais, africains, pour en fait ramener ces richesses qui ont été volés par des flux financiers illicites ou des entreprises multinationales françaises qui, par leurs activités, vont faire des atteintes à l'environnement ou des violations des droits humains et qui souvent ne sont pas responsables sur place parce qu'il n'y a pas l'état de droit qui permet une responsabilité.
Bien sûr.
Donc avoir une responsabilité en France. C'est un peu notre spécificité en effet par rapport à d'autres associations comme Anticor qui fait de la corruption au niveau aussi national. On a cet aspect, cette dimension internationale.
Bah, merci beaucoup Anna Kefer d'être venue parler à notre antenne. Comme disait très bien Vladimir, merci pour votre travail puisque c'est important qu'il y ait des associations qui puissent faire ça et de voir que ça a des conséquences maintenant, ça donne aussi un peu d'espoir. Chers auditeurs, je vous conseille du coup d'aller sur le site internet de Sherpa. Vous pouvez découvrir leur combat mais aussi faire des donations si vous en avez la possibilité évidemment. Merci aussi à toi Vladimir. Bonne soirée à tous les deux et dans la foulée, on retrouve Tiana pour le Flash Info de ce soir.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
On commence ce flash avec une mauvaise nouvelle pour la culture, et oui, désolé. À Paris, les emblématiques librairies Gibert, leader du livre d'occasion, ont annoncé qu'elles allaient déposer une demande de redressement judiciaire auprès du tribunal des activités économiques de Paris. En gros, ils demandent à ce qu'on sauve le groupe pour qu'il puisse maintenir son activité et travailler sur son endettement sereinement. Ces magasins subissent surtout une pression sur les loyers et sont concurrencés par les sites en ligne. Et ce signal d'alarme culturel nous amène à une autre alerte nationale. Cette fois-ci, puisque ce lundi, les prisons françaises sont sous tension. Le premier syndicat des surveillants pénitentiaires, l'UFAP-UNSA Justice, appelle à un blocage général des prisons. Il dénonce les conditions de travail de plus en plus difficiles et exige des mesures urgentes du gouvernement. Cela veut dire qu'ils n'accepteront pas de livraison, n'ouvriront pas les parloirs et interdiront l'accès aux avocats et aux associations. Le plus urgent à leurs yeux est de combler les 5000 postes manquants. Il y a en France 63 000 places de détention, mais 88 000 détenus, soit un taux de suroccupation de 137,5%. Pendant ce temps, dans le monde, est-ce que les choses vont mieux? Eh bien, regardons un rapport qui est sorti aujourd'hui, qui a mesuré les dépenses militaires du monde entier. Près de 2 900 milliards de dollars ont été dépensés en 2025, ce qui marque la 11e année consécutive de croissance. C'est l'Europe qui est au top du classement, puisque ses États ont augmenté leurs dépenses dans la guerre en Ukraine à cause du désengagement américain. L'Allemagne a augmenté ses dépenses de 24% et l'Espagne de 50%. L'actualité politique maintenant montre que 2027 s'annonce là-bas aussi assez chargé car les élections apportent au Burundi et... Au Burundi, le président actuel a été investi hier par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour briguer un nouveau mandat en 2027. Et au Nigeria, 14 partis d'opposition ont promis d'unir leurs forces pour contester la domination du parti au pouvoir l'année prochaine. Bon, pour finir ce flash info, sur une note un peu plus légère, je vous présente un petit fun fact 100% parisien. Tout d'abord, êtes-vous vraiment parisien si vous n'êtes jamais monté sur un Vélib? Peut-être que vous auriez découvert une passion pour le vélo. Qui sait, en tout cas, le Vélib est devenu un sport de compétition samedi dernier car pour la première fois, une course a été organisée au parc du Bois de Vincennes. 60 participants ont arpenté les allées de 19h à 23h et derrière l'événement, le collectif Vélib Racing qui a mis 2 ans à convaincre les autorités que la chose était sérieuse. Le succès a été immédiat, comme l'affirme le cofondateur, puisque les places ont été vendues en 4 heures. Pogacar n'a qu'à bien se tenir.
Merci beaucoup pour ce récapitulatif de l'actualité. On se retrouve dans quelques instants, mais avant ça, on s'écoute. Promis, ça va aller de Thomas Goldberg.
Place aux nouvelles têtes avec vous, Mathilde Serrel, et ce matin, un ex-enfant star qui pourrait aider toutes les nouvelles têtes de demain. Thomas Goldberg est dans notre studio. Portrait sonore.
Dans ma tête, c'est la merde. Je passe mes journées à compter les mégots. Je parle tellement de moi, je suis devenu le fantôme de mon ego. Je suis pas très bon pour la négo. Moi j'essaie d'aider des gens, au moins ça me fait servir à quelque chose, ça me permet de relever le niveau. J'ai plus mes potes de mandarine, c'est de ma faute j'ai mis des barrières. J'aurais même raté son mariage, parce que je pensais qu'à ma carrière. Seul avec un loup comme arrière, je suis sorti loin de ma tanière. Ils veulent décider de comment je vais briller, je vais faire les choses à ma manière.
Parce que le silence est d'or et que le disque est en diamant. Je dois me réinventer entièrement. Parce que j'ai compris les pleurs des gens qui vivent des vraies choses. Moi j'ai connu qu'un enterrement. Je me prends la tête, j'embrasse le mal. Je m'auto-détruis mais pourtant je le fais fièrement. J'ai mis mes rêves dans un coffre en métal. Mais j'ai perdu la clé pour m'en rappeler. J'ai tout rédigé dans un livre. Bientôt 100 000 dans un clip. Fenêtre ouverte et la clim. De toute façon je consommerai toujours moins que Taylor Swift. Je suis passé proche de la crise de nerfs. Mais je dois compléter la frise. Le rap c'est que pour compléter l'artiste. Attention parce que si ça dure un peu trop, y'a moyen je finisse par débrancher la prise. Retrouver le calme et puis sourire entièrement. Faire tomber le masque et le piétiner fièrement. Combler mon âme et apaiser ma colère. Ça fait 3 ans que je me terre dans la pénombre. Que je réponds même plus quand j'entends mon prénom. Que l'échec est devenu mon colocataire. Dès qu'on me demande comment je vais, je sais pas quoi répondre. Je dis ça va mais je sais que j'en ai pas l'air. Maintenant le défi c'est de penser à moi. Tout en oubliant pas que j'ai les réponses. Je lâche un big up au directeur de casting. Ceux qui m'ont incité à jeter l'éponge. Au fond sans eux j'aurais pas fait tout ça. J'aurais pas grand chose à raconter dans mes sons. Au fond sans eux les tons de ton téléphone. Et ce premier album serait resté dans mes songes. J'ai l'impression que je vais nulle part mais pourtant. Parfois je vois le chemin qui dévie vers tout ce que j'ai rêvé. Je me sens pas vraiment mieux mais tout change. Je finis doucement par regagner mes PV. Empoisonné j'ai dû trouver l'antidote. Et soigner celui que j'avais laissé crever. Ça doit faire 3 ans que j'ai pas vu mes potes. Et depuis ce moment là j'ai plus rien à donner.
Tourne ton téléphone. Ces vidéos d'entraide fédèrent plus d'1,5 million d'abonnés, inspirées et guéries par Billie Eilish, ici à 26 ans. Il se lance dans la musique et publie aujourd'hui un véritable manuel de survie. Promis, ça va aller.
C'était Promis, ça va aller, de Thomas Goldberg. Vous êtes sur la matinale de Radio Campus Paris 93.9 FM. Il est 19h38 et tout de suite la chronique actualité de Rachel.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonsoir Rachel, on parle encore d'actualité après le Flash Info. Tu es là pour la chronique et je crois que nous allons entendre parler de Pomme le Dauphin.
Oui, bonsoir Abel, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous emmène à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays Basque, 25 degrés sur la plage. Au programme de ces vacances d'avril, baignade, bronzette, sorbet, citron bleu chez le glacier Lopez. Et sur toutes les lèvres, une seule question. Alors, t'as vu le dauphin ? En effet, Pomme, de son nom, une jeune dauphine de 5 ans, a élu domicile dans la baie depuis octobre dernier, devenant avec l'arrivée des beaux jours l'attraction de toute la côte. À peine la serviette posée sur le sable, avant même de mettre son maillot de bain, tout le monde la cherche et espère se baigner avec elle. Parce que qui n'a jamais rêvé de nager avec les dauphins ? Et la joyeuse Pomme Dauphine s'est donnée du sable à moudre à son public. Cachée dans l'eau, la voilà qui sort discrètement son aileron à la surface, se faisant presque passer pour son voisin le requin. Puis, enfin repérée, quand elle sait que tout le monde la regarde, c'est un festival d'acrobatie dans l'eau et dans les airs. Des courses avec les nageuses et les nageurs et des tourbillons autour des paddles, jusqu'au bouquet final devant le coucher de soleil. Et spectatrices et spectateurs en redemandent. Téléphone à la main, prêt et prête à la paparazzer, la suivre, la caresser, presque lui demander un autographe. Des attroupements de curieux et curieuses de tous les âges au bord de l'eau. Mais que fait Pomme, toute seule là-bas, tous les jours depuis octobre ? Selon Fabienne Delfour, ethnologue et cétologue interviewée par le média indépendant Reporter, soit elle a été rejetée par le groupe, soit elle s'est isolée elle-même. Parce qu'un dauphin ne vient jamais seul. Animal social, Pomme a alors très vite cherché à remplacer ses anciennes congénères dauphines. Et ses nouveaux camarades sont désormais les humains de la plage de Saint-Jean. Avec le temps, elle s'est avancée au plus près du bord, jusqu'à venir dans la zone de baignade, à 2 mètres du bord, juste le temps de nous apprivoiser. Dans la baie, il y a de quoi manger, des interactions sociales et une vue à couper le souffle jusqu'en Espagne. Quoi de meilleur pour Pomme, apparemment à l'aise comme un dauphin dans l'eau ? Malheureusement, cette relation qui semble idyllique n'est pas sans poser problème. D'abord pour la sécurité de celles et ceux qui se baignent à ses côtés. Parce qu'aussi mignonne soit-elle, Pomme est somme toute un cétacé de 2 mètres et 200 kilos. Donc les risques d'accident sont possibles. Aussi, les risques de maladie. Mais nous sommes aussi un danger pour elle. On en voit certains et certaines jouer ou nager avec elle, la caresser, sauter sur son dos ou même s'accrocher à son aileron. Des comportements dangereux pour eux, mais aussi pour elle. À plus long terme, son petit cocon dans la baie avec les baigneuses risque surtout de changer son comportement sauvage et de lui faire perdre l'envie de retourner à l'océan et avec ses réflexes en pleine mer. Alors, j'y étais pas plus tard que jeudi dernier et c'est fou. Effectivement, c'est fou de voir une dauphine au bord de l'eau. Tellement fou parce qu'on n'en voit jamais. Mais parce qu'on n'est pas censé en voir d'aussi près. Encore moins censé pouvoir toucher ces créatures marines de tous nos fantasmes. Parce que rappelons-le, le grand dauphin est une espèce protégée. Jusqu'alors, les risques étaient plutôt limités. Saint-Jean-de-Luz, c'est 15 000 habitants l'année, mais on voit arriver avec l'augmentation des températures de plus en plus de personnes dans l'eau. Et cet été, c'est presque 1 million de visiteurs et visitrices par mois qui va débarquer dans la commune. Et ça embarrasse et inquiète la municipalité qui mène une campagne de sensibilisation à coups de panneaux sur la plage pour rappeler les règles de bonne conduite à adopter, à savoir ne pas l'approcher, ne pas la toucher ni la nourrir, ne pas lui barrer le passage, sinon c'est 750 euros d'amende. Traduit dans 4 langues, français, anglais, espagnol et euskara. Les panneaux sont joliment illustrés par une image de dauphine parfaitement adorable, joyeuse, mignonne et vive qui donne bien envie de nager avec elle. Mais c'est à nous de faire attention, de la protéger en gardant nos distances. On peut la regarder, sinon nager avec elle, mais dans nos rêves. Parce que l'océan lui appartient plus qu'à nous. Alors, le temps qu'on ne passe pas à nager avec Pomme peut-être utilisé pour méditer ou réfléchir, c'est pourquoi je vous invite à lire ou peut-être à relire le livre Non noyé, leçon féministe noire apprise auprès des mammifères marines, un essai poétique écrit par Alexis Pauline Gums, autrice, poétesse et militante féministe noire et queer américaine, publié aux éditions Burn Out et Les liens qui libèrent en français depuis l'année dernière. C'est un genre de texte méditatif poétique basé sur des éléments scientifiques où l'autrice nous explique à travers 19 chapitres comment les mammifères marines peuvent nous inspirer dans nos luttes. Et ça nous invite à la réflexion en nous remettant un peu à notre place, à l'égalité, à la solidarité interespèces.
Merci beaucoup Rachel. Donc on a compris, les auditeurs, on laisse les dauphins tranquilles et surtout on ne va pas embêter Pomme. Mais tout de suite, on va écouter une petite interview.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Direction Biarritz pour le troisième... Laissez les dauphins tranquilles. Pour le troisième opus d'une série d'interviews réalisées lors du Festival International de Programmes Audiovisuels Documentaires ou FIPADOC, en résumé. Dans leur documentaire, Seras Faruquito, excusez-moi l'accent, Ruben Atlas et Santi Aguado dressent le portrait de Faruquito, grand danseur de flamenco issu de la dynastie espagnole Montoya. Louis-Pierre Lacouture a rencontré l'un des co-réalisateurs qui nous parle des sujets de fond dans son film. C'est parti pour l'écoute.
Il était capable de voir un chant, une danse ou de l'art dans chaque petit détail de la vie. Quand il nous faisait répéter un pas, il voulait que ça sonne comme les sabots des chevaux. Le documentaire Seras Faruquito nous parle pas seulement du grand danseur de flamenco d'aujourd'hui, mais aussi des autres bailaores qui forment sa famille, comme Faruco, son grand-père, son fils Juan El Moreno, et de leurs racines gitanes. Radio Campus Paris a rencontré le co-réalisateur du documentaire Santi Aguado à l'occasion du festival FIPADOC à Biarritz. Il évoque les partis pris du film, comme celui de renoncer à tisser un récit objectif pour laisser place à l'émotion et à l'authenticité. Un reportage de Louis-Pierre Lacouture avec la complicité d'Ambrine Kerouac.
Imagínate que tu estás bailando por bulería y quieres improvisar con pasos que...
Imagine que tu danses une bulería. Tu veux improviser un pas sans bien savoir lequel. Tu dois alors penser à ce qu'est le sens du rythme. Tu dois partir dans un sens ou un autre. Tu commences à cette vitesse et tu imagines quelque chose qui fait...
Bien sûr, faire un film sur un bailaor pour un réalisateur de documentaire, c'est quelque chose de précieux. La danse est très visuelle, il y a du mouvement et c'est ce que tu veux dans un film, que ce ne soit pas seulement des têtes qui parlent, mais aussi utiliser l'image et le son pour transmettre. Et en ce sens, la danse est un outil parfait pour communiquer.
Il y a des choses dans l'histoire qui, pour Faruquito, sont difficiles à verbaliser. Mais comme un bailaor, il s'exprime avec la danse. C'est une autre façon pour lui de communiquer avec le public et de montrer qui il est.
Eso sí.
Je suis Santi Aguado,
j'ai co-réalisé le film Seras Faruquito. L'autre co-réalisateur s'appelle Ruben Atlas, il est américain de New York et a commencé à tourner il y a 4 ans. Nous voulions au début du projet faire un film sur Faruquito, qui est pour beaucoup d'experts du flamenco le meilleur danseur qui ait jamais existé.
Mejor bailaor que ha existido nunca. Mais à mesure que nous avancions dans les recherches et l'écriture, nous sommes rendus compte qu'il serait impossible de parler de Farruquito sans parler aussi de sa famille. Il est le porteur d'un héritage très profond qui vient en particulier de son grand-père, Farruco. C'était un innovateur qui a créé un style de danse unique et Farruquito a surtout fait perdurer cet héritage en lui apportant sa touche et sa personnalité. Mais on peut dire qu'il s'inscrit dans une école créée par son grand-père. Dans le film, on fait un parallélisme, presque un jeu de miroir, entre la relation que Farruquito avait avec son grand-père et celle que son fils a maintenant avec lui.
Quand je vis à mi Juan,
quand j'ai vu mon Juan se produire pour la première fois en solo, ça a été une grande satisfaction. Voir comment il suivait mes pas et voir l'importance que ce moment avait pour lui.
Le flamenco est probablement l'un des biens culturels les plus importants que nous ayons en Espagne et l'un des biens culturels que nous exportons le plus. Curieusement, on dissocie très souvent la composante gitane du flamenco alors qu'elle en constitue l'alpha et l'oméga. Il y a bien sûr de très grands artistes payos, c'est-à-dire qui ne sont pas gitans, mais ils ont tous été influencés par des artistes gitans. Le flamenco est intimement lié à l'expérience du peuple gitan depuis des décennies et même depuis des siècles. C'est quelque chose que j'ignorais et que nous avons tâché de rendre visible dans le film, avec notamment l'aide d'une conseillère gitane qui nous a aidés avec le contenu et le scénario. J'espère que le public apprendra à apprécier la complexité et la profondeur du flamenco. Dans le cas de Farruquito, chaque pas, chaque mouvement est le fruit d'une histoire de plusieurs années, rien n'est là par hasard. Chaque détail de sa danse est en connexion avec le passé, que ce soit celui de sa famille ou celui du flamenco en général. Farruquito est très fier d'être gitan, il l'a souvent revendiqué et son frère Farru aussi. Les deux se sont fait les porte-voix du peuple gitan et participent à de nombreux événements liés à cette culture. Nous avons décidé de limiter drastiquement les interviews, on n'en tournait que 4. On ne voulait pas du documentaire typique sur les artistes, plein de gens qui auraient dit combien Farruquito est grand. On voulait que son histoire et celle des Farruco soient racontées de l'intérieur. Que ce soit eux, Farruquito, sa mère, ses deux frères et son fils. Ils sont tous artistes, tous bailaores. Nous avons pensé que le récit serait plus authentique si c'était eux qui le racontaient. On ne cherchait pas à créer un récit journalistique, une objectivité basée sur des opinions nombreuses, mais un récit émotionnel, authentique. Ce qui passait par le fait de leur donner un micro à eux et non pas à des personnes extérieures.
Un micro et non à gente de fuera.
Era capaz de ver un baile y un cante y un arte en cualquier.
Il était capable de voir un chant, une danse ou de l'art dans chaque petit détail de la vie. Quand il nous faisait répéter un pas, il voulait que ça sonne comme les sabots des chevaux. Il s'inspirait de la façon dont le vent soufflait dans les champs pour lui-même onduler.
Como él era de Andarrío, él era canastero, iba andando y veía un trabajador.
Comme il était voyageur, curieux, il pouvait se promener et en voyant un ouvrier prendre du sable et le jeter, imaginer un pas de danse. Aujourd'hui, la plupart des bailaores bougent les mains comme des femmes, mais lui, non. Ce qu'il fait, il ouvre, il ferme. Les bras ne doivent jamais montrer les coudes. C'est ce que nous disait Farruco.
Para marcar, como nos decía Farruco. El gesto de la cara es muy importante.
Le mouvement du visage est très important. Il doit montrer ce que tu traverses.
Et c'était un reportage de Louis-Pierre Lacouture avec la complicité d'Ambrine Kerouat, une série à retrouver en podcast sur notre site internet. Alors on approche tristement de la fin de l'émission, mais heureusement, il nous reste une chronique. Mais avant ça, on s'écoute Straglos de Thomas Goldberg.
Au fond de mon trois pièces Armani, toutes mes copines ont la classe, elles se remaquillent devant la classe, mais j'en vois une qui se refait belle en mettant le nez dans la farine. Dans ces rendez-vous mondains, je me sens jamais vraiment à l'aise. J'ai dû m'éloigner parce que je finissais par m'enliser. Pas fait pour ce game ni pour la fame, mais j'ai besoin de poser des mots sur ce que je ressens pour m'analyser. Jamais grand chose au final. Sont très bons pour placer des produits, faire de l'art, y'a plus personne. Ils ont tous la langue bien pendue, font pas grand chose d'original. Apparemment mal entouré, c'est pire que vouloir être hyper seul. Dans ces rendez-vous mondains, je me sens jamais vraiment à l'aise. J'ai dû m'éloigner parce que je finissais par m'enliser. Pas fait pour ce game ni pour la fame, mais j'ai besoin de poser des mots sur ce que je ressens pour m'analyser.
C'était Straglos de Thomas Goldberg. C'est toujours la matinale de Radio Campus Paris 93.9 FM. Il est 19h53 et juste après, c'est la chronique.
La matinale de 19h.
On approche de la clôture de cette incroyable matinale, humblement. Et avant, écoutons Éloane qui vient nous parler de la saison 3 de Foria. Bonsoir Éloane.
Bonsoir Radio Campus, bonsoir Abel. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de chronique ciné sur la matinale et pour fêter ça, je compte bien passer mes nerfs le plus amèrement possible sur la saison 3 de Foria, dont le troisième épisode sort d'ailleurs aujourd'hui. Malheureusement pour vous, l'heure n'est pas à la rigolade dans ma chronique parce que je suis tellement révoltée que j'ai pas réussi à écrire de blagues, mais seulement des vérités vraies vu que je suis cette star que je pense être. Déjà, grâce aux médias, de plus en plus de gens rejettent la direction de Sam Levinson et dénoncent son male gaze. La saison 3, c'est un peu un concentré de tous ces fantasmes les plus dégueux, qu'on parle de Sydney Sweeney en cosplay bébé ou de stripteaseuse lesbienne. Je pense sincèrement qu'il est juste allé voir les trois plus grosses tendances sur Pornhub ou les Epstein Files pour vous montrer à quel point il était inventif dans son fétichisme. Notamment, ce qui me dérange dans ces trois épisodes, c'est sa vision hyper construite du rêve américain. Levinson prétend ériger une satire des États-Unis alors que tout indique le contraire, comme un performative male qui arbore son matcha fièrement alors qu'il va le jeter dans un buisson. Je vois pas du tout la satire, tout simplement parce que même le réalisateur ne l'a pas vu. Il est tellement prisonnier de son jusqu'au boutisme viriliste qu'il se rend même pas compte que toute sa production est problématique. Dès l'instant où tu ramènes l'actrice la plus trumpiste de toute la Terre sur ton plateau de tournage alors qu'elle perpétue le mythe de la race aryenne et qu'elle est fière de son pays de fasciste, il faut se poser des questions. Même Nicki Minaj qui passe de icône queer à collabo, c'est moins bizarre vu qu'elle essaie juste de se mettre Ice dans la poche pour pas se faire botter les fesses. Dans Euphoria, on est bloqué dans un tel mirage du American Dream que le mensonge, il en devient collectif. Sur l'échelle du Pinocchio Code approuvé par ma science, le nez de Levinson y fait la taille du Burj Khalifa à Dubaï. Faut aussi savoir que Zendaya a refusé tout événement de promotion pour la saison 3, autre que deux ou trois avant-premières. Actuellement, elle prépare la sortie du prochain film de Nolan, The Odyssey, et du troisième volet de Dune qui sort cette année. Mais un boulet de taille reste enchaîné à sa cheville, ce vieux navet de saison 3 pédophile. C'est comme s'il y avait une énorme soirée tech chez tes voisins, mais que tu dois garder ton chien malade qui a fait pipi sur le tapis du salon. Les deux premières saisons, elles étaient surtout iconiques grâce au travail de la photographe Petra Collins, sauf que c'était pas consenti évidemment parce que Sam Levinson entend important qu'homme qu'il pense être, s'est absolument approprié son travail et tous ses mérites. Maintenant qu'il est tout seul, tout triste, tout penaud, il nous fait une saison toute misogyne avec une affiche toute moche digne de la grande aventure Lego 2. Je suis toujours en deuil de la bande-son de Labyrinthe qui apportait tout le zeste de magie au cocktail des deux premières saisons, saupoudrée de paillettes et de kétamine. Maintenant, on se retrouve avec une des vieilles spécialités qu'on faisait enfin dans les jardins de nos mamies, la bonne soupe aux cailloux, à la boue et à la morve. J'ai même fini par faire des blagues.
Je te trouve très dur avec Lego 2, Eloane, qui était un super film.
J'avoue.
Mais j'aime bien ce tandem de te recevoir l'animation pour que tu détruises des œuvres que je n'aime pas beaucoup
avec
non plus.
Avec grand plaisir.
Bon, merci beaucoup pour ta chronique. C'était la matinale de Radio Campus Paris. Merci infiniment à nos invités Anna Kieffer et Colin Lavitte, à Louis-Pierre Lacouture pour le reportage. Merci à Joé à la réalisation, à Vladimir pour l'interview, à Tiana pour le Flash Info, excuse-moi, à Rachel pour la chronique actualité et à Eloane pour la chronique libre. Un grand merci à Jeanne et à Aude pour la coordination et surtout merci à nos 12 auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Abel à l'animation. Merci et bonne soirée.